affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série autour des métamorphoses du livre. La dernière fois, nous avions parlé du passage du volumen au codex. Aujourd'hui, nous allons aborder un changement majeur dans l'histoire du livre, l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg. Et pour poursuivre cette série, nous sommes toujours en compagnie de Yann Sordet, directeur de la bibliothèque Mazarine. Il vient de publier une histoire du livre et de l'édition aux éditions Albin Michel. Bonjour Yann Sordet.
Bonjour.
Alors, avant de parler de l'imprimerie, nous allons peut-être parler du papier, parce qu'en Occident, nous utilisions le papyrus, le parchemin. Il y avait d'autres pratiques ailleurs, et celle du papier en particulier. Quand ce matériau est-il arrivé en Europe ?
Alors, le papier pénètre en Europe. D'abord très ponctuellement à partir du XIe siècle. Mais évidemment, la chronologie de son invention, de sa manufacture, de son développement est plus ancienne, puisque l'invention de la technique du papier, elle est traditionnellement localisée en Chine et datée de 105 après Jésus-Christ et attribuée à un personnage dont on a gardé le nom, hein, dont l'historiographie chinoise a en quelque sorte célébré la mémoire, c'est Cai Lun, un haut fonctionnaire et écrivain, copiste de la cour impériale. Voilà, 105 après Jésus-Christ. Mais cette historiographie officielle de l'invention du papier, en fait, ne cadre pas tout à fait avec la science archéologique, parce que des découvertes, y compris des découvertes très récentes, ont permis de dater les premiers emplois du papier du 3e siècle avant notre ère, localisant dans la province du Shaanxi, c'est-à-dire dans le nord-est de la Chine, pour dire les choses simplement, ces premiers témoignages. Alors, qu'est-ce que c'est que le papier ? Le procédé est singulièrement différent de celui du papyrus, hein, que nous avons évoqué précédemment. Le procédé de fabrication du papier consiste à réduire en pâte, c'est-à-dire à dissocier un matériau d'origine soit végétale directe, naturelle, soit un matériau issu d'une première transformation d'une matière première végétale, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on part du textile. On réduit cette pâte, on dissocie les fibres cellulosiques par des moyens à la fois chimiques, le pourrissement dans une solution aqueuse, et par des moyens également mécaniques, techniques, c'est-à-dire le broyage. Ensuite, donc la pulpe ainsi obtenue est maintenue dans une cuve, et dans la cuve, on va prélever une partie de la pulpe, de la pâte à papier, à l'aide d'un tamis. Un tamis dont le cadre délimite le format à venir de la feuille. Et ainsi, on va, prélèvement après prélèvement, on va composer des couches, chaque couche étant la matière à venir d'une feuille de papier, laquelle feuille est égouttée, puis pressée, puis séchée, etc. Et au terme de ce processus, on a un support qui est souple, mais surtout qui est pliable et facilement pliable, avec une résistance mécanique au pli qui est infiniment supérieure à ce que peut proposer le papyrus dans le monde méditerranéen. Donc un support souple, pliable, mais également de dimensions standardisables, puisque le format de la feuille est donné par le tamis, qui a servi à prélever la pulpe dans la cuve. Donc, le papier ainsi inventé et maîtrisé en Chine va passer en Corée, au Japon à partir du 7e siècle. Voilà pour la progression orientale. En revanche, vers le monde occidental, c'est la route de la soie, puis le Moyen-Orient islamique qui vont constituer un relais vers l'Occident. Les Arabes les Arabes ont découvert l'existence du papier et utilisent le papier à partir du 7e siècle. Il y a aussi une tradition historiographique forte qui est tout à fait vraisemblable, c'est-à-dire que pendant la bataille du Talas, hein, donc en Asie mineure, en 751, eh bien, les Arabes, les Abbassides plus exactement, hein, qui commencent leur règne, font des prisonniers chinois, et ces prisonniers chinois vont leur enseigner la technologie du papier, technologie qui est implantée à Bagdad, puis à Damas, et qui va progresser vers l'ouest dans le sillage de l'expansion du monde musulman. Donc en Afrique du Nord, 10e siècle, et puis quelques moulins vont fonctionner dans l'Europe sous l'influence ou la domination musulmane à partir du 11e siècle. Donc essentiellement, en Sicile et en Espagne. Les marchands européens, notamment les marchands italiens d'Amalfi, de Gênes, de Venise, importent du papier arabe assez largement avant qu'une production plus proprement européenne ne se développe. Hein, donc à partir surtout du XIIIe siècle, les plus anciens moulins d'identité européenne, si je puis dire, fonctionnent à Fabriano, près de Gênes. Et puis au XIVe siècle, la technologie du papier s'implante en France, en Champagne, vraisemblablement à Troyes, dans la région de Troyes, dès l'année 1338. En Allemagne, plus tard, vraisemblablement à Nuremberg, au moins à partir de 1390. Alors pourquoi le succès du papier, hein, et l'expansion non seulement de son usage, mais aussi de sa technologie? Parce que c'est un support qui est meilleur marché que le parchemin. Et on observe vraiment, enfin les historiens de l'économie voient avec, sur la base d'indices qui sont très fermes, que la différence de prix entre le support papier et le support parchemin va croissante à partir du XIIIe siècle. Et cette croissance de la différence de prix tient bien sûr au développement rapide des moulins européens. Mais le papier est aussi un support dont on met en doute la pérennité, la légitimité. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un support qui est potentiellement plus fragile que le parchemin, qui est pendant longtemps considéré comme moins noble. Ainsi, en 1221, l'empereur germanique et roi de Sicile Frédéric II interdit son utilisation pour les actes officiels. Hein, voilà, pour ses usages dans le monde politique, dans le monde administratif. Et pour ce qui est du monde du livre, hein, de la fabrication livresque, là aussi, on a des exemples de réserves et de procès. Le procès contre le papier le plus fameux a été laissé par Jean Gerson. Donc un immense personnage, hein, du début du XVe siècle. Jean Gerson, il est chancelier de l'Université de Paris. C'est un très grand intellectuel, c'est un très grand pédagogue. Et dans un petit traité, De laude scriptorum, hein, louange de la culture scribale, l'éloge des scribes, dans un petit traité dont la rédaction est datée de 1415, il livre une critique assez sévère du papier. Hein. Le papier, c'est un support éphémère qui est déconseillé pour tous les textes de valeur que l'on voudrait conserver, et les étudiants sérieux doivent s'abstenir de s'en servir. Voilà, donc des réserves contre l'usage du papier, une moindre noblesse, une moindre résistance, hein, une moindre longévité pressentie du papier, mais ces réserves intellectuellement formulées, ces réserves très conscientes, n'empêchent pas l'expansion et le succès économique de ce nouveau support qui va servir l'invention de l'imprimerie, mais qui n'a pas précisément déterminé l'invention de l'imprimerie. Hein. Il va la servir parce que c'est un support qui est moins cher, on l'a déjà dit, que le parchemin, mais c'est aussi un support qui est plus aisément transportable. Un livre sur papier, hein, à nombre de feuillets égal, est infiniment plus léger, moins lourd en tout cas, qu'un livre qui serait imprimé sur parchemin. Et étant donné la part importante du coût de transport dans le prix de transaction du livre imprimé dès le XVe siècle, c'est un facteur déterminant.
Nous arrivons donc à cette fameuse révolution de l'imprimerie. Tout le monde attend dans cette série le moment de l'arrivée de Gutenberg au milieu du XVe siècle. En quoi cet homme et son associé ont-ils innové ?
Oui, alors Gutenberg, c'est, on le dit souvent, peut-être trop souvent, c'est l'invention de l'imprimerie, c'est l'invention de la typographie à caractère métallique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une proto-histoire, il y a une préhistoire de la typographie. Il y a un chaînage avec des éléments d'interruption dans cette chronologie, mais il y a un chaînage qui nous invite à chercher, notamment en Extrême-Orient, des pratiques technologiques qui constituent des formes d'antériorité à la technologie typographique. Les plus anciennes formes d'impression ancrées sur un support souple, en l'occurrence sur un support qui est le papier, sont chinoises. La Chine pratique l'impression xylographique, c'est-à-dire l'impression ancrée à l'aide de blocs de bois, au moins depuis le 7e siècle. Et elle pratique aussi l'impression en recourant à des caractères mobiles, qui sont des caractères mobiles en bois ou en terre cuite, en argile, au moins à partir du 11e siècle. Mais l'Extrême-Orient a également connu l'imprimerie à caractère mobile métallique, qui font de, a priori l'identité pourtant de la typographie occidentale. Et cette invention, d'une certaine manière, cette invention de l'imprimerie à caractère mobile métallique, elle est à mettre au crédit du royaume de Corée. Puisque c'est l'usage de caractères mobiles métalliques est attesté en Corée dès le début du XIIIe siècle. La production conservée aujourd'hui remonte seulement au siècle suivant avec un témoin exceptionnel, un livre imprimé en caractère mobile métallique, un livre dont l'impression est datée de 1377, le Jigji. C'est un recueil de chants, de louanges et d'enseignements du Bouddha. C'est vraisemblablement le second volume d'une édition qui en comportait deux. Ce second volume est connu en un seul exemplaire qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque nationale à laquelle il a été légué en 1952. C'est un témoignage, dans l'histoire mondiale de l'imprimerie, c'est un témoignage extrêmement important. J'en veux pour preuve qu'en 2001, deux objets ont été inscrits au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Donc la même année, ces deux objets sont la Bible à 42 lignes de Gutenberg et le Jigji, ce livre imprimé en Corée au XIVe siècle. Alors, ce précédent extrême-oriental de la typographie, il est pressenti par les Occidentaux depuis longtemps, au moins depuis le XVIe siècle. Il a été confirmé par les archéologues et par les historiens du livre, mais en revanche, il n'y a aucune connexion avérée entre la typographie coréenne au XIVe siècle et l'invention ou la réinvention de la typographie européenne au milieu de la décennie 1450 et grâce à Gutenberg. Aucune connexion avérée, aucun processus de transfert technologique qui nous autoriserait à mettre en relation ces deux contextes, voire même simplement à soupçonner des filiations. Voilà. Alors pour revenir sur le terrain européen, à Gutenberg. Alors ce que j'aimerais dire surtout, c'est que on ne doit plus se contenter de retenir le seul nom de Gutenberg. Surtout pas, parce que là, les historiens du livre l'ont bien montré dans le courant des dernières décennies. Il y a une association qui préside à la réussite commerciale et technique de l'imprimerie dans la décennie 1450. Et cette association, qui va produire entre autres la Bible à 42 lignes, imprimée vraisemblablement entre 1454 et 1455, cette association, elle rassemble un certain nombre de caractéristiques qui seront celles des joint-ventures. Alors pardonnez-moi cet anglicisme.
Ce sont des entrepreneurs en fait.
Oui, absolument, absolument. Ce sont des entrepreneurs et la joint-venture, c'est une articulation de compétences, c'est une association de compétences complémentaires compétence de niche qui est tissée pour une durée limitée, qui est orientée par la réalisation d'un produit précis, un produit précis dont la mise au point constitue un projet qui est financement, qui est sur le plan financier, pardon, lourd et risqué, tout simplement parce qu'il y a une part d'innovation, d'expérimentation technologique extrêmement, extrêmement importante. Alors, de quelle joint-venture parlons-nous, si vous me passez ce néologisme ? Eh bien, c'est celle qui réunit, entre 1452 et 1455, trois personnages. Alors, le premier, on en a déjà parlé, c'est un technicien du métal. C'est Gutenberg, un technicien dont les recherches inspirent la confiance. Le deuxième, c'est un financier extrêmement attentif aux perspectives de rentabilisation des investissements, extrêmement attentif aux opportunités de marchandisation de cette invention. C'est Johann Fust. Et puis, il y a un troisième personnage, c'est un homme du livre. Hein, c'est Peter Schoeffer. Homme du livre parce que c'est un universitaire, Peter Schoeffer, il a étudié à l'université d'Erfurt, il a exercé à Paris en qualité de calligraphe. Donc il a une expertise sur le texte, aussi bien sur le contenu du texte, expertise philologique, que sur la forme du texte, hein, la forme des lettres, la calligraphie. Et l'invention de la typographie et le succès de la typographie ne peut pas se comprendre si on ne met pas en relief cette efficacité de ce triangle, hein, entre ces trois personnages qui réunissent leur expertise pour promouvoir finalement un nouvel objet livresque qui va s'avérer extrêmement efficace, extrêmement décisif pour servir un objectif que la culture livresque cherche depuis longtemps. Cet objectif, c'est le perfectionnement de la reproductibilité d'un texte, d'un livre.
C'est la série.
Voilà, la série, la multiplicité des exemplaires. Hein, donc, c'est une stratégie du nombre qui est une garantie commerciale, mais c'est aussi une stratégie de type philologique. Reproduire de manière identique.
L'apparition de l'imprimé marque celle d'un nouveau secteur économique avec des métiers innovants, technologiques. Comment se développe-t-il ? Comment se répand-il en Europe et ailleurs ?
Oui, alors l'expansion de la technique typographique à l'échelle de l'Europe commence à partir de la décennie 1460. Ce qu'il est important, il me semble, de garder à l'esprit, c'est que la nouveauté technique ne suffit pas à rendre compte de la révolution de l'imprimé, de son succès et de son expansion. Hein, expansion dans le périmètre européen, mais expansion également dans le périmètre mondial, puisque la technique typographique va s'implanter sur la totalité du globe en remplaçant un certain nombre de technologies qui lui préexistait dans un certain nombre de civilisations. Donc la nouveauté technique ne suffit pas. Alors, je crois qu'on peut convoquer les concepts d'innovation de trois ordres. Il y a une innovation de produit, c'est l'aspect technique, mais il y a aussi une innovation de procédé, hein, et une innovation organisationnelle. Et c'est ces trois concepts, hein, innovation de produit, innovation de procédé, innovation organisationnelle, ont été développés par un économiste, hein, Joseph Schumpeter, au milieu du XXe siècle. Et ils ont été appliqués dans le domaine de l'histoire du livre par Frédéric Barbier. Et ils sont extrêmement efficaces, extrêmement, extrêmement opérants. Parce qu'une fois qu'on a acquis l'innovation de procédé, hein, c'est-à-dire l'innovation technologique, la nouvelle économie repose sur des innovations organisationnelles ainsi que sur des innovations de produits qui doivent insérer ce nouvel objet livre dans des logiques marchandes, qui doivent faciliter sa circulation, qui doivent provoquer la demande. Hein, et le tout afin d'assurer la viabilité sur le long terme des structures de production de ces officines d'imprimeurs libraires qui commencent à s'installer à travers toute l'Europe. Et le monde de la librairie se développe ainsi à la faveur de l'expansion de l'imprimé et impose ses logiques et ses outils. Et dès le XVe siècle, on a toute une série d'innovations, de produits qui apparaissent, de nouveaux outils dont l'objectif est la fidélisation commerciale. Et la convoitise aussi du consommateur. Il s'agit d'abord du prospectus. Hein, on pratique le prospectus au moins depuis la fin des années 1460. Le plus ancien prospectus conservé a été imprimé par Johannes Mentlin, qui est le premier imprimeur de la ville de Strasbourg. Et il annonce ainsi, sur un petit feuillet, la publication à venir d'un traité de théologie. On a des prospectus beaucoup plus sophistiqués à Venise dans la décennie 1480. Il y a un imprimeur très très intéressant d'origine allemande, Erhard Ratholdt, qui développe un répertoire d'éditions scientifiques, mathématiques, astronomiques à Venise dans les années 1482, absolument époustouflant. C'est lui qui va donner l'édition Princeps, enfin la première édition des éléments d'Euclide en 1482, mais il ne l'a pas lancée sur le marché comme ça, son édition d'Euclide. Il a auparavant produit une espèce de petit argument commercial, un prospectus publicitaire séparé, hein, donc un bifeuillet, deux feuillets, comprenant le début du texte, et aussi une espèce de démonstration de tous ses talents techniques et très précisément du dispositif qu'il avait inventé pour reproduire les figures géométriques, les cercles, les triangles, les carrés, etc., pour lesquels il utilisait non pas des gravures sur bois, mais des fils de métal. Hein. Donc voilà, un prospectus mettant en relief l'efficacité de cette invention technique. Voilà, le prospectus, mais il y a aussi les catalogues commerciaux. Hein. Alors, les catalogues de bibliothèques, on les connaît depuis longtemps, depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, depuis la bibliothèque d'Alexandrie, mais désormais, ce sont les éditeurs, les imprimeurs libraires qui vont publier des catalogues pour permettre à leurs collègues, à leurs confrères, à leurs clients de connaître leur stock pour susciter la convoitise. Et puis, les imprimeurs libraires vont investir aussi les foires. Et là, c'est quelque chose qui est très important. Depuis les années 1480, les grandes foires du Moyen-Âge occidental, qui sont souvent organisées deux fois par an, hein, vous avez la foire de printemps et la foire de l'automne, et bien ces foires sont progressivement visitées par les libraires et les imprimeurs de toute l'Europe qui s'y installent et vendent leurs produits. Bon, les plus importantes, hein, au moins jusqu'au XVIIe siècle, c'est les foires de Francfort, hein, qui vont connaître leur apogée au XVIe et au XVIIe siècle, avant que les foires de Leipzig ne prennent un peu le dessus. Mais vous avez des foires à Paris, vous avez des foires à Medina del Campo en Espagne, etc. En tout cas, les foires de Francfort sont extrêmement importantes, au point qu'on a un éditeur au XVIe siècle, un éditeur humaniste, d'abord parisien, puis genevois, Henri Estienne, qui en fait un éloge. Et qu'il publie cet éloge des foires de Francfort en 1574, et il montre bien que les foires, c'est pour les hommes du livre, c'est un lieu de rencontre absolument formidable. C'est là qu'on vient rechercher du crédit, c'est là qu'on fait circuler des textes, hein. C'est là qu'on exerce le commerce pacifique des idées, hein, et de la philologie. C'est là qu'on négocie de futurs travaux éditoriaux. Et puis ces foires, elles sont fréquentées par les imprimeurs, par les éditeurs, mais aussi par les auteurs et par les professeurs de toutes les grandes universités européennes.
Si nous vous comprenons bien, certains codes du monde de l'édition naissent à ce moment-là, à ce moment où le livre imprimé est naissant et se cherche encore un peu.
Oui, 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 vous avez raison, le livre, le produit imprimé se cherche. Au XVe siècle, le premier défi des imprimeurs libraires a été de faire de ce nouveau média, de cet objet technologiquement nouveau, un concurrent légitime au manuscrit. Voilà, pour différentes raisons, parce qu'il ne faut pas perturber les pratiques de lecture et de consommation textuelle. Il faut contourner aussi un procès de l'imprimé qui est un procès explicite. Hein. Voilà, il y a eu un procès de l'écriture avec Platon, il y a eu un procès du papier, on l'a vu avec Jean Gerson tout à l'heure. Il y a aussi un procès de l'imprimerie au XVe siècle. Donc il s'agit de contourner ces réserves que l'imprimerie, que la typographie suscite dès la, dès la deuxième moitié du XVe siècle, dans une Europe dont vous connaissez l'inquiétude, l'inquiétude spirituelle, etc. Donc, en tout cas, le premier objectif des imprimeurs, ça a été de reproduire les formes du manuscrit, mais tout en restant dans un contexte de fabrication qui vise la standardisation, la réduction du temps et des coûts de production. Mais, dans ce temps-là, et tout particulièrement sur un segment temporel qui va des années 1450 jusqu'au dans les années 1530, l'imprimé est, de toute évidence, un produit qui cherche son identité visuelle, qui cherche à se singulariser. Et cette recherche d'identité visuelle passe par l'élaboration et la normalisation de dispositifs particuliers qui sont nouveaux, qui sont pour nous bien connus, qui aujourd'hui font partie de l'identité même de l'objet livre, mais qui sont à mettre au crédit de cette première phase d'expansion de l'objet imprimé. Et ces dispositifs, j'en retiens trois, c'est d'abord l'adresse, l'explicitation du nom de l'imprimeur libraire. C'est la marque de l'imprimeur libraire, sa marque commerciale. Et enfin, c'est l'apparition, l'esquisse, puis l'apparition et la normalisation de la page de titre. Et ces trois dispositifs, l'adresse, la marque d'imprimeur libraire et la page de titre, ont pour fonction d'afficher sur le produit, bien sûr, des instances de production et de commercialisation. Et cette exigence, cet affichage s'impose dans l'imprimé alors qu'elle ne s'est jamais vraiment imposée dans le manuscrit. La présence d'une adresse, enfin d'un colophon dans le manuscrit était loin d'être universelle. En revanche, dans l'imprimé, le marquage rapide du produit, l'affichage explicite de l'origine, le lieu de production, enfin la ville, la date d'impression, le nom, l'identité de l'officine de l'imprimeur libraire, sert immédiatement des enjeux d'ordre proto-industriel. On revendique une expertise technologique, mais aussi marchand. On assure la promotion, la commercialisation à distance des exemplaires. Et puis on veut fidéliser aussi les usagers. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans un second temps, mais pas tout de suite, surtout à partir de la décennie 1540, ce dispositif, l'adresse, la marque de l'imprimeur libraire et la page de titre vont servir aussi des enjeux administratifs de contrôle de la librairie et de surveillance. Ça va être aussi des marqueurs d'identification et de la production imprimée qui vont être requis par les autorités politiques.
Ce sera notre dernière question, parce qu'avec ces livres en série, les idées circulent plus facilement. Les livres portent des enjeux de foi au moment de la réforme, de la contre-réforme, des enjeux de pouvoir. À partir de quand les autorités cherchent-elles à contrôler ces productions ?
Alors, il faut quand même rappeler qu'en Europe occidentale, depuis le XIIe siècle, c'est-à-dire depuis l'apparition des libraires, c'est-à-dire de professionnels de la production et du commerce de livres indépendants du scriptorium monastique, pour dire les choses de manière un peu raccourcie. Mais en tout cas, ces libraires, depuis le XIIe siècle, sont tout de même placés sous la responsabilité, sous la tutelle de l'université. Et c'est le cas dans l'ensemble des monarchies d'Europe occidentale. Donc indépendance relative d'une certaine manière. Mais c'est vraiment, et là vous avez raison, c'est vraiment avec la naissance de la librairie imprimée que se met en place dans l'ensemble du monde occidental un dispositif de contrôle de la production, de surveillance de la production, et un dispositif qui va connaître une accélération au moment de la réforme, c'est-à-dire au moment du surgissement des thèses luthériennes en 1517, et un dispositif qui est constitué de deux volets pas totalement superposables. Le premier volet, c'est le contrôle a posteriori, la censure a posteriori, et l'autre volet, c'est bien évidemment l'inverse, c'est-à-dire les dispositifs de contrôle a priori. Préalable. Alors la censure a posteriori, elle consiste à condamner un ouvrage ou plusieurs ouvrages après leur impression. Elle interdit leur circulation, elle interdit leur possession, leur lecture, etc. Et elle ordonne, dans la plupart des cas, leur destruction. Et on a des actes isolés de censure a posteriori qui condamne un titre ou un auteur et qu'on voit se multiplier au fil du XVIe siècle. Ces actes émanent aussi bien des autorités ecclésiastiques, les papes, les évêques, que des autorités laïques, hein, les cours de justice comme les parlements et le pouvoir royal. On voit aussi de toute évidence que ces actes sont infiniment statistiquement plus nombreux dans les espaces politiques touchés par l'avancée de la réforme. Et voilà, et ces actes vont faire aussi l'objet de compilations. Et la compilation des interdictions, c'est l'index. Hein, la faculté de théologie de Paris, la Sorbonne, en 1544-1545, met en forme le premier index connu du monde occidental. Puis, un petit peu plus tard, au moment du Concile de Trente, c'est Rome qui reprendra, mais dans une approche universelle, ce principe d'une compilation, ce principe d'une publication régulière de la liste des livres qui ont fait l'objet d'une interdiction ponctuelle. L'index étant, à partir du Concile de Trente, placé sous la responsabilité d'une congrégation spécifique, la congrégation de l'index. Et c'est une réalité qui dure jusqu'en plein XXe siècle. Hein. La dernière publication de l'index des livres interdits, c'est 1948. Donc voilà pour la censure a posteriori, mais il y a aussi, se met également en place une censure a priori, comme un moyen d'encadrement par le politique de la production imprimée. L'idée, c'est d'insister sur la nécessité d'autoriser une publication à venir. Et là, alors, il y a un certain nombre d'événements qui montrent une accélération de cette intention dans les années 1540. On voit aussi que progressivement, notamment en France, c'est l'État central qui revendique ce pouvoir de l'autorisation préalable. Et il y a vraiment un moment qui est absolument décisif, un moment clé, c'est l'ordonnance de Moulins. On est en février 1566. Et l'ordonnance de Moulins marque vraiment un aboutissement en redéfinissant la politique du privilège. Alors, qu'est-ce que c'est que le privilège ? Le privilège, c'est une réalité qui est apparue au XVe siècle, hein, dont la plupart des États européens et voilà, des autorités concédaient des privilèges à tel ou tel imprimeur, libraire qui avait l'intention d'exercer son métier de typographe. Mais à l'origine, l'octroi d'un privilège n'était pas du tout une autorisation de publier, n'était pas du tout une reconnaissance juridique, hein, c'était pas un acte de censure préalable, c'était simplement un acte de soutien de type économique. Mais avec le temps, les choses ont changé. Et en 1566, là, le pouvoir central en France prend une décision extrêmement claire et définitive. Il n'y aura pas de livre imprimé qui n'ait auparavant, dont l'auteur ou l'imprimeur n'auront pas auparavant, au préalable, sollicité puis obtenu un privilège de grand sceau. Donc un privilège, autorisation d'imprimer, délivré par la grande chancellerie. Donc il y a une ambition absolument colossale, hein, de contrôle a priori par l'État, par la grande chancellerie, de la totalité de la production imprimée. Autant vous dire que cette ambition était totalement irréaliste. Hein. Voilà.
Cette ambition montre en tout cas l'importance de ce secteur du livre. Un grand merci, Yann Sordet, d'avoir déroulé pour nous ce deuxième chapitre de notre saga sur les révolutions du livre. Lors du prochain épisode, nous allons quitter les imprimeurs libraires pour entrer dans le monde de la révolution industrielle. Je rappelle le titre de votre livre, « Histoire du livre et de l'édition, production et circulation ». Formes et mutations, c'est aux éditions Albin Michel. À bientôt.